Deval pour l'info. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Cet atterrissage d'urgence qui tient du miracle en Russie. Les pilotes d'un avion de ligne ont réussi à poser leurs passagers quasiment indemnes dans un champ juste après le décollage. Un vol de mouette avait endommagé l'un de leurs moteurs. Les syndicats de la compagnie Transavia en France promettent une montée en puissance de leur mouvement de grève. 95% des vols devraient être assurés aujourd'hui. Dans ce journal également, les premières mesures pour éloigner des militants d'extrême gauche de Biarritz avant le G7, justifiées ou pas. Et puis les publicités sexistes désormais interdites à la télé au Royaume-Uni.
Europe 1.
Rien que les images filmées par des passagers ont de quoi donner des sueurs froides. Deux pilotes de ligne de la compagnie Ural Airlines ont été célébrés comme des héros hier en Russie. Ils ont réussi à faire atterrir leur avion dans un champ de maïs en catastrophe juste après le décollage. Un vol de mouettes a croisé leur trajectoire, abîmant l'un des réacteurs. Il a fallu un sang-froid hors norme pour sauver la vie des 233 passagers. Pierre Herbulot.
L'Airbus A321 vient tout juste de quitter la piste de décollage. Pendant une dizaine de secondes, à peine, tout se déroule normalement. Il prend de l'altitude quand soudain, une volée de mouettes est happée par le réacteur gauche de l'avion. Un passager qui filme le décollage capte la scène par hasard. Les pilotes n'ont pas le choix. Il faut poser l'appareil de toute urgence. Il rentre les trains d'atterrissage et vise avec le ventre de l'avion à un champ de maïs à 1 km de l'aéroport. La descente est progressive, l'atterrissage brutal vécu de l'intérieur. Sur les 233 personnes à bord, 69 sont légèrement blessées. Le bilan est miraculeux. Dès qu'il pose un pied sur la terre ferme, ce passager raconte ce qu'il a vécu, conscient d'avoir frôlé la mort.
On a commencé à perdre de l'altitude. Heureusement, on n'était pas monté très haut. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'habitation. C'était des champs sous l'avion. Et grâce à Dieu, on n'est pas allé plus loin. Il n'y a pas eu de bousculade. Tout le monde s'est aidé. Beaucoup de gens ont ensuite couru loin de l'avion. On est tous vivants.
Les rescapés s'éloignent de l'appareil entre deux rangées de pieds de maïs. Les pilotes sont unanimement portés en héros et les questions commencent à se poser. D'où venaient les oiseaux? Une décharge sauvage à proximité de l'aéroport est d'ores et déjà pointée du doigt par les experts en sécurité aérienne.
Récit signé Pierre Herbulot.
Un récit angoissant. Hein. Et pendant ce temps, les pilotes de la compagnie Transavia, eux, devraient majoritairement assurer leur vol aujourd'hui.
Malgré l'appel à la grève chez les hôtesses et les stewards lancé par la CGT, qui demande d'avoir voix au chapitre dans les négociations en cours sur le développement de la compagnie low cost menée pour l'heure uniquement entre la direction et les syndicats de pilotes. 95% des vols seront maintenus ce vendredi sur Transavia, mais le préavis de grève court jusqu'au début 2020. Le mouvement va s'intensifier, promet le secrétaire général de la CGT Transport Aérien, Kamel Khalfi.
Notre préavis est pour 6 mois et aujourd'hui nous démarrons tout doucement ce mouvement de grève, et tant mieux pour nos clients. Mais si effectivement la direction de Transavia ne nous prenait pas au sérieux, il faut qu'ils sachent que ce mouvement va monter crescendo et que ça risque d'être compliqué dans les jours et mois à venir. Les négociations chez Transavia ne peuvent pas avoir lieu et se tenir exclusivement avec des pilotes. Les autres catégories professionnelles, socioprofessionnelles, doivent être associées aux négociations. Et d'autant plus quand l'organisation qui les représente pèse plus de 55% sur l'ensemble de l'entreprise. Et est la seule à pouvoir signer des accords pour l'ensemble des salariés.
Le secrétaire général de la CGT Transport Aérien, Kamel Khalfi, joint pour Europe 1 par Olivier Samin. Tandis qu'à l'aéroport d'Orly, un homme a été arrêté hier après-midi avec un couteau en céramique dans ses bagages. Il avait passé les contrôles de sécurité et s'apprêtait à embarquer dans un vol pour Barcelone. Il dit avoir eu une dispute avec sa conjointe qui a appelé la police pour avertir d'une attaque. L'homme est en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières.
Il est 6h05 sur Europe 1.
C'est une grève qui a fait du bruit à son lancement au milieu du mois de juillet.
Cela fera demain un mois que les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris ont cessé le travail. Elles demandent de meilleures conditions au quotidien et le fait d'être embauchées directement par l'hôtel et plus par un sous-traitant. Leur espoir, connaître la même victoire que leurs collègues des hôtels de la Place Vendôme à Paris ou de Clichy-la-Garenne récemment. Leur mobilisation ne faiblit pas. Sofiane Aklouf les a rencontrées.
Des tambours et des bouteilles remplies de riz pour se faire entendre. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis manifestent tous les jours depuis le 17 juillet. Tables, sonos, distribution de tracts, rien n'est laissé au hasard.
Il y a le caisse de solidarité qui va nous permettre de faire à manger. Moi, des fois, j'amène de la viande avec des petits pois. Et il y a d'autres qui font le riz et il y a d'autres qui font le sauce mafé.
Les clients de l'hôtel entrent et sortent souvent indifférents. Pourtant, les femmes de chambre l'assurent, Leur mouvement peut durer encore longtemps. D'ailleurs, l'année dernière, d'autres femmes de chambre, celles du Parc Hayat à Paris, ont tenu 89 jours avant d'obtenir gain de cause. Une victoire que Rachel a bien en tête.
Même si c'est jusqu'en décembre, nous sommes là. Même si c'est jusqu'à dans un an, dans deux ans, nous sommes là jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction.
Il y a bien des discussions avec la direction de l'hôtel Ibis. Mais pour les grévistes, le compte n'y est pas. Notamment, comme le dit Aboubacar de la CGT, sur la réduction des cadences.
Une femme de chambre doit faire 3 chambres et 1000 heures. Donc on a demandé à ce qu'on nous enlève cette demi-chambre qui a le prime d'épargné, bien sûr. Nous, on a proposé à la direction 7,24 €. Donc la direction nous propose 2 €.
Les femmes de chambre se préparent à souffler la bougie de leur premier mois de grève. C'est ce samedi, et elles le promettent, il y aura du monde.
Reportage signé Sofiane Aklouf pour Europe 1. En bref, l'incendie qui a parcouru près de 900 hectares dans l'Aude est désormais fixé. Les pompiers espèrent en venir totalement à bout aujourd'hui. 200 soldats du feu sont restés mobilisés toute la nuit. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.
Vous le savez, la ville de Biarritz se prépare à accueillir le G7. Ce sera à partir du 24 juillet. Et un activiste allemand vient déjà d'être expulsé de manière préventive.
Oui, un homme de 38 ans, soupçonné par les autorités de vouloir participer aux contre-manifestations prévues à Hendaye. Cet employé saisonnier de la région a donc été renvoyé outre-Rhin avec interdiction de revenir en France avant le 29 août. Son avocate, maître Muriel Rueff, dénonce une mesure excessive. Elle a déposé un recours examiné aujourd'hui devant le tribunal administratif.
Il est parti sans même prendre 3 affaires. Il a été conduit manu militari à la frontière. Alors l'arrêté est très clair. Il évoque 2 faits. D'une part, cette personne serait soupçonnée en Allemagne de violence lors du G20 à Hambourg, qui est nié. Il n'y a pas, à notre connaissance, de procédure à son encontre en Allemagne. Et l'autre fait, il a été contrôlé, un simple contrôle d'identité, près de Bure, en compagnie d'opposants au projet Sigewa. On demande à un juge de vérifier la légalité et la proportionnalité de cette mesure, surtout. On a encore une fois une loi qu'on nous a vendue comme étant une loi qui vise à lutter contre le terrorisme, qui est utilisée contre quelqu'un qui est simplement un opposant politique. Je ne vois pas en quoi le comportement de cette personne constitue un danger. On vient ici à des procès d'intention. On pense qu'il a éventuellement, selon son comportement, l'éventuelle intention de se rendre à un endroit où ça peut être potentiellement dangereux. On tombe en fait dans une paranoïa d'État.
Maître Muriel Rueff, avocate de l'activiste allemand expulsé le temps du G7, jointe pour Europe 1 par Salomé Legrand.
Et on en vient maintenant à ces mesures inédites au Royaume-Uni. Des publicités jugées sexistes ont tout simplement été interdites à la télévision.
C'est la conséquence d'une nouvelle règle adoptée en juin qui bannit tout stéréotype de genre dans les réclames. De grandes marques sont donc les premières à en faire les frais, Anaïs Cordoba.
La première publicité censurée qui vante le goût d'un fromage américain montre 2 jeunes papas au restaurant, leur bébé dans les bras. Distraits par leur délicieuse tartine de fromage, ils oublient leur bambin sur le tapis roulant du buffet à volonté. Pour l'autorité de régulation de la publicité, ces images perpétuent le stéréotype d'hommes incapables de s'occuper de leurs enfants, au point de les mettre en danger. L'autre pub interdite est celle d'un constructeur automobile et montre un homme astronaute, un autre champion paralympique, puis une femme avec une poussette. La femme passive opposée aux hommes aventureux. Ces stéréotypes ne sont pas sans conséquences, explique l'autorité de la publicité.
Nos recherches montrent que les stéréotypes sexistes peuvent être toxiques. Ils ont le potentiel d'affecter les aspirations personnelles, d'influencer le choix de carrière des petits garçons et des petites filles. Des petites filles qui, par exemple, ne choisiront pas de devenir ingénieurs.
Ces 2 publicités ont provoqué 128 plaintes de téléspectateurs. Les 2 marques incriminées, elles, se défendent de tout sexisme. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et puis, non, vous vouliez pas parler des pique-niques électroniques?
Allez, vous aimez une idée de sortie pour votre week-end pour terminer. Vous aimez les pique-niques, Sébastien, vous aimez aussi la musique électro. Vous devriez donc aimer les pique-niques électroniques qui se tiennent tous les dimanches jusqu'au 15 septembre sur l'hippodrome d'Auteuil à l'ouest de Paris. C'est un concept importé du Canada où les DJ se succèdent aux platines de midi à minuit. Ronan Coquelin.
Rendez-vous sous l'un des gros chênes de l'hippodrome. Des boules à facettes sont suspendues aux branches. Dessous, on esquisse quelques pas de danse où on profite de la musique depuis sa nappe de pique-nique. Émilie vient pour la 2e fois.
Le concept de l'après-midi, c'est plutôt sympa, ouais. Ça change des soirées où il faut commencer déjà à 23h jusqu'à 6h du matin. Quand on travaille le lendemain, c'est pas top, alors que là c'est bien l'après-midi.
Le concept du pique-nique électronique arrive de Montréal, il y fait fureur depuis plusieurs étés. Il débarque à Paris pour le plus grand plaisir d'Anthony, venu avec des amis. Il a déjà testé la version canadienne, alors s'il fallait choisir...
Les DJ de Paris sont meilleurs qu'à Montréal.
L'événement veut toucher un large public, qu'on vit entre amis ou en famille, à tout âge. La plus jeune, c'est sans doute Billy. Elle a...
5 ans et demi.
Est-ce que la musique, elle est pas trop forte?
Pour mon papa, il dit qu'elle est trop forte.
On a donc donné un casque anti-bruit à la petite Billy, de quoi rassurer sa marraine Rochane.
On peut se procurer soit des bouchons d'oreilles pour les adultes, soit des casques, c'est très appréciable.
Depuis son lancement, le pique-nique électronique attire plus de 2000 personnes chaque dimanche.
Et vous avez donc jusqu'au 15 septembre pour en profiter, c'était Ronan Coquelin.
Dans le journal de Théo Manval, qu'on retrouve à 7h, à tout à l'heure.